Claude Raux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes missionnaire d'Afrique, évêque de Lagoua. C'est communément connu sous le nom du diocèse du Sahara.
Exactement.
Parce qu'une grande partie de votre diocèse, c'est l'immense désert, c'est en Algérie. Vous êtes titulaire de ce diocèse depuis 2004. Présentez-nous un petit peu ce diocèse. Quand on regarde sur une carte, c'est comme insensé de voir trois petits points en haut qui marquent les diocèses du nord de l'Algérie et cette immensité ensuite qui est votre lot à vous.
C'est ça. Alors je dois dire d'abord et rendre hommage à mon prédécesseur qui est Monseigneur Michel Gagnon, qui est décédé en 2004 et je lui ai succédé en 2004.
Vous étiez son vicaire général.
J'étais son vicaire général. Et je tiens à lui rendre hommage tout d'abord. Et ayant été son vicaire général, j'ai donc appris à connaître ce vaste diocèse, donc de 2 millions de kilomètres carrés, qui représente actuellement 3 800 000 habitants, répartis maintenant dans des grandes villes qu'on appelle, qui sont des anciennes oasis, et qui sont des cités immenses maintenant, de 200 000, 150 000, 100 000 habitants, et qui ne sont plus ces petites oasis avec une petite colline,
palmier.
Un palmier, puis un chameau qui passe,
ouais.
Mais qui connaissent aussi des problèmes de cité, des problèmes de chômage, et qui font face maintenant à l'urbanisation. Mais ce sont des îles au milieu d'un désert immense, hein, donc 2 millions de kilomètres carrés, et avec une toute petite population chrétienne d'une centaine de chrétiens.
Dans le diocèse?
Au total dans le diocèse, disons,
de
chrétiens permanents. Oui.
D'accord.
Et je peux dire que je peux compter sur les doigts d'une seule main les chrétiens originaires de l'islam. Donc nous sommes une église essentiellement universelle, qui se diversifie de plus en plus par les vocations. Alors sur cette centaine de diocésains et de diocésaines, il y a entre 20 et 25 prêtres et religieux, une quarantaine de religieuses et 5 ou 6 laïcs au service du diocèse et au service des œuvres de notre diocèse. Voilà ce que
Les œuvres de votre diocèse ne s'appliquent donc pas aux catholiques, qui sont pour tout le monde?
Ah, c'est pour tout le monde. Notre vocation est d'être essentiellement universelle et de vivre le partenariat, un partenariat et aussi une rencontre avec le monde musulman. Nous ne pourrions pas nous permettre de vivre complètement clos sur nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos petits monastères et dans nos églises. Nous sommes des maisons ouvertes où la sonnette retentit très souvent, le téléphone, et nous avons aussi quelques petites activités qui sont proposées pour l'ensemble de la population, soit le monde féminin, soit le monde masculin.
Est-ce que cette toute petite communauté de chrétiens vit ensemble, ou si elle est éparpillée sur cette immensité-là, vous en trouvez trois à un endroit, quatre à des centaines de kilomètres plus loin?
C'est tout à fait ça. Nous sommes répartis sur 11 points de présence sur ces 2 millions de kilomètres carrés. Cela veut dire, par exemple, que si je prends une ville comme Timimoun, qui est une petite ville de 30-40 000 habitants, il y a actuellement 4 religieuses. Et ce sont les seules chrétiennes de cette ville. Si je prends Gardaïa, qui est ce que j'appelle le centre de mes absences, même si c'est là qu'est la maison de l'évêque, il y a une quinzaine de chrétiens, donc dont 5 religieuses, 5 pères blancs, 5 sœurs blanches, et puis 5 ou 6 laïcs au service des gens. Nous sommes essentiellement au service des gens, au service de la rencontre. Donc nous sommes des tout petits îlots de chrétiens, toute petite communauté chrétienne vivant la relation avec l'autre à travers nos activités, créant des ponts de fraternité avec les gens qui nous connaissent et que nous rencontrons.
Dans cette petite ville auquel vous avez fait allusion, où il y a 4 religieuses et c'est tout ce qu'il y a de catholiques et de chrétiens à 100 kilomètres à la ronde, ces religieuses se célèbrent la messe entre elles-mêmes, elles attendent le passage du Père Blanc?
Oui, alors il y a toujours, pratiquement, il y a un prêtre qui vient tous les 15 jours pour célébrer l'Eucharistie. Et par exemple, au milieu du jour, vers 3 heures de l'après-midi, c'est l'heure où toute activité s'arrête dans la ville. C'est là qu'elles ont leur temps de prière chaque jour. Elles lisent les écritures du jour, font un temps de partage d'évangile, prient ensemble et puis reçoivent la communion, se donnent la communion.
Mmh. Et leur occupation dans cette communauté-là, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'une va dans un centre féminin à l'intérieur de la ville, hein, un centre de promotion féminine où on fait de la coupe, couture et puis différentes activités qui regroupent un certain nombre de femmes. L'autre prend sa voiture et s'en va dans des petits villages situés à 20 ou 30 kilomètres pour réunir des femmes et puis les initier à la coupe, couture, au tricot, à la broderie. Et ça donne aussi l'occasion de rassembler les femmes entre elles et de pouvoir créer des liens entre elles. Une autre, qui est une ancienne infirmière, va à la rencontre de certaines familles où il y a une personne ou un enfant handicapé pour aider la famille à rééduquer cet enfant ou cette personne. Et puis la quatrième reste à la maison. Pour faire la cuisine.
Oui, pour recevoir les autres.
Recevoir les autres.
Quel est le contexte de cette église dans cet immense diocèse par rapport au diocèse du nord de l'Algérie, le diocèse d'Alger, par exemple? Dans votre cas, l'église est tellement petite qu'on ne la remarque pas, on ne la voit pas, ou si elle est aussi, si elle doit aussi jouer du coude et se faire respecter, risque souvent des intolérances?
Bon, c'est-à-dire que nous avons moins de difficultés parce que nous représentons, disons, moins, de par notre petit nombre, moins un danger, puis nous sommes connus. Dans le sud, il est très facile de repérer les prêtres, les religieuses, et les quelques laïcs qui travaillent au service de la population, nous sommes très connus des gens. Dans le Nord, c'est un petit peu différent parce que l'Église fait davantage nombre et est beaucoup plus anonyme dans le paysage urbain. Pour ce qui nous concerne, nous, dans le diocèse, nous sommes très facilement repérables. Je me souviens la première fois que je suis retourné à Timimoun, qui est cette ville où sont les quatre religieuses, je ne trouvais pas trop ma route pour savoir où étaient les sœurs. J'ai demandé à quelqu'un qui passait là, où est-ce qu'est la maison des sœurs. Tout de suite, il m'a dit, mais elles sont là-bas, à tel endroit. Et c'était, vous voyez, c'est très très différent comme contexte sociologique et comme contexte religieux aussi.
Au moment du congrès eucharistique international à Québec en 2008, j'avais eu l'honneur d'interviewer Henri Taissier, qui allait prendre sa retraite du diocèse d'Alger.
C'est ça.
Et d'autres me disaient autour, cet homme-là, chaque fois qu'il met le pied dehors de son évêché, sa tête est mise à prix. Il risque sa tête. C'est pas votre cas. C'est pas,
oui,
c'est
non,
pas le danger
que,
du Sud.
C'est-à-dire à cette époque-là, c'était en quelle année vous me dites?
Moi, l'entretien que j'ai eu avec lui, c'était en 2008, mais on me parlait de ce que c'était.
À un moment donné, oui. C'est-à-dire que pendant la période, disons, d'islamisme radical et de terrorisme que nous avons connu, ça, c'était un fait. Hein? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait une garde rapprochée. Et, bon, ce n'est plus le cas maintenant.
Hein? Vous êtes né à Poitiers.
C'est ça, oui.
Poitiers en France.
Oui.
Vous avez fait des études, j'imagine, dans la région. Et au moment où vous avez choisi d'être missionnaire d'Afrique, soit Père Blanc, vous êtes venu compléter ces études-là à Ottawa.
Oui,
donc,
tout à fait.
Vous êtes un peu de chez nous.
Un petit peu, je m'y sens bien. Ça a été pour moi la première expérience, une première expérience de rupture avec ma culture d'origine pour rejoindre une autre culture qui était celle d'Amérique du Nord.
On vous envoyait faire un test au Canada avant.
Eh bien, ça a été un bon test parce que ça a été un test de découvrir, disons, une région pratiquement francophone, bon, même si j'étais en, si j'étais en Ontario, et une autre culture. Et ça, pour moi, ça a été, le, disons, une première expérience très, très profitable de déculturation, inculturation, et qui m'a préparé aussi à savoir me laisser déstabiliser dans, dans un autre contexte, qui était celui de l'Afrique du Nord, et à adopter et à apprendre une autre culture que la mienne.
Le choix de vous incardiner au diocèse de Lagoa, c'est une volonté de votre supérieur? C'est un geste d'obéissance ou si c'est une volonté de vous qui avez voulu aller là?
C'est-à-dire que ça a été un désir qui m'est venu ici au Canada. J'ai rencontré un père blanc qui m'a transmis, disons, sa passion de vie apostolique en milieu musulman. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours désiré repartir, partir, être envoyé dans un milieu musulman. Et puis, j'ai commencé par habiter Alger. C'est là que ça a été mon premier lieu de mission, si on peut dire. Et ensuite, en 1975, j'ai rejoint Gardaïa. Pratiquement, je suis depuis 1975.
Vous avez été en paroisse d'abord, avant de devenir vicaire général, puis évêque?
Oui, enfin, en paroisse, c'est un grand mot. Oui. J'étais plutôt... j'ai été d'abord moniteur dans un centre de préformation professionnelle où nous prenions des jeunes, tout jeunes hommes à la rue pour leur redonner une éducation suffisante pour pouvoir rentrer dans un centre de formation professionnelle. Et comme notre centre a été nationalisé, j'ai dû chercher du travail dans un autre cadre, et j'ai été engagé par l'enseignement public algérien comme professeur d'anglais dans un collège à Tougourt, où je suis resté 3 ans. Et ensuite, je suis allé à Ouargla, où j'ai continué dans l'enseignement public, mais comme vacataire. Et en 83, je me suis retrouvé à Gardaïa, où j'étais primitivement, et n'ayant pas de ce que nous appelons de plateforme de rencontre naturelle pour pouvoir créer des liens avec le monde musulman, je me suis engagé chez un ami qui m'a appris son métier de dinandier, qui est un travail de sculpture sur cuivre. Et là, j'ai travaillé 4 ans avant d'être rappelé par mon évêque comme vicaire général.
Cette idée de vous associer à un dinandier, donc de travailler le cuivre sur des vases ou sur des plaques, peu importe, c'était une volonté de vous inculturer, c'était une volonté de connaître quelque chose de très particulier au pays, ou ben, s'il fallait bien faire quelque chose?
Ben, c'est-à-dire il fallait bien faire quelque chose, en ce sens que c'était important d'avoir un contexte naturel de relation avec les gens. J'ai d'abord cherché plutôt dans d'autres domaines, soit comme comptable dans une petite entreprise ou autre, ce n'était pas possible. Et c'est un ami qui m'a proposé donc de m'apprendre son métier. Et pour moi, ça a été un peu mon temps de Nazareth. C'est-à-dire que je suis descendu de mon estrade de professeur, où j'avais quand même un certain statut social. Et puis, je me suis retrouvé avec 4 autres ouvriers algériens qui ont mis toute leur passion à m'apprendre leur métier. Et ça a été pour moi un temps d'enracinement profond dans la culture populaire que je désirais rejoindre.
Qu'est-ce que c'était le défi pour vous de vous retrouver en milieu musulman?
Alors, le défi pour moi, c'était d'aller vers l'autre qui ne partage pas ma foi. Non pas dans un but de prosélytisme ou de, mais pour créer avec lui, et c'est là notre mission, pour créer avec lui des liens de fraternité, montrer que au fond le Dieu amour que nous professons est un Dieu sans limite, qui ne s'arrête pas aux limites de ma propre église, de ma propre communauté, de ma propre religion, mais qui a vraiment un horizon qui est universel, qui ne peut pas s'arrêter à ses limites religieuses. Et depuis longtemps, c'est vraiment ce que je désirais. Je ne pensais pas le faire à travers une la très grande communauté musulmane, mais finalement, je suis content de ce choix.
Et ce que vous voulez faire, vous trouvez réponse du côté des musulmans que vous côtoyez?
Alors, pas à un très haut niveau, mais je peux dire que avec des amis musulmans et des amitiés qui durent, il y a des liens extrêmement profonds. Et nous ne pourrions pas vivre, nous, petites communautés de 100 chrétiens au milieu de 3 800 000 habitants, nous ne pourrions pas vivre si nous n'avions pas des amitiés très très profondes et des amitiés qui durent et qui, au fond, s'incarnent et s'ancrent dans notre croyance commune au même Dieu unique.
Claude Rowe, vous êtes présentement chez nous, vous êtes au Canada, sur une invitation des pères trappistes qu'on disait d'Oka autrefois, mais maintenant de Saint-Jean-de-Matha. Vous venez prêcher leur retraite.
Exactement.
C'est pas fait, vous allez le faire.
C'est fait.
Qu'est-ce qu'un missionnaire d'Afrique, comme vous, évêque d'un diocèse aussi immense, dans l'action très très concrète de côtoyer quotidiennement les musulmans, donc des gens d'une autre confession, qu'est-ce qu'il a à dire à des moines trappistes reclus dans un petit monastère, presque en silence quotidien?
Je crois que c'est là que je rejoins le désert. Je crois que le désert géographique m'a fait rejoindre mon désert intérieur. Et je crois que ce que vivent les moines, c'est aussi leur désert intérieur. Et je crois que nos deux déserts se sont profondément rencontrés autour d'une méditation et de la lecture de la parole de Dieu.
Pour vous, Claude Rowe, le désert, c'est une grande richesse ou si c'est l'absence? C'est le grand vide qu'on tente de combler?
Ce n'est pas un grand vide que l'on tente de combler. C'est aussi une absence, une certaine absence visible de Dieu, mais le désert est tellement beau qu'on peut y lire aussi des signes de Dieu qui ne parlent qu'à ceux qui le cherchent. Et je crois que notre monde intérieur est constitué de la même façon. Il peut être un grand vide, un abîme où il n'y a rien. Mais si l'on cherche Dieu à l'intérieur de soi, je crois qu'il y a des signes qui nous révèlent sa présence, quelquefois à travers la nuit, mais il y a toujours des étoiles. Et c'est pour cela que, pour moi, le désert extérieur, le désert géographique m'a fait rejoindre et me fait rejoindre toujours un peu plus ce désert intérieur et me fait rejoindre aussi le désert intérieur de l'autre.
C'est le propos que vous tenez dans le désert ma cathédrale?
Oui, un peu, c'est ce que j'essaie de partager.
Le désert ma cathédrale est une œuvre que vous avez écrite, qui est parue en France il y a peut-être une couple d'années.
C'est ça, oui.
Qui nous arrive tout juste chez nous, maintenant.
Exactement, oui.
Est-ce que vous êtes conscient et vous avez voulu jouer sur le mot désert?
J'ai voulu jouer, c'est pas moi qui ai voulu jouer sur le mot désert, bon, c'est l'éditeur qui m'a trouvé parce que c'est une de mes phrases que je dis un matin au départ je pars en voiture et le soleil se lève et je dis au fond, le soleil c'est le vitrail de ma cathédrale et je dis là, le désert est ma cathédrale, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Et parce que ce désert-là, c'est là que vous y trouvez votre raison d'être, votre inspiration, votre motivation?
Oui, c'est mon sanctuaire. C'est celui qui m'est donné. Je n'ai pas de cathédrale.
On suppose bien pour 100 chrétiens, 100 catholiques,
oui,
sur
oui.
un immense territoire, que vous n'avez pas bâti une cathédrale à
oui,
haut clocher.
Bien sûr. Mais au fond, je trouve le désert tellement beau. Tellement vaste que, bien oui, je trouve qu'il est assez beau, assez vaste pour abriter une petite communauté chrétienne et habiter aussi son évêque qui va retrouver ces petites communautés chrétiennes dispersées à travers ce grand désert.
Et le silence et la réclusion des trappistes, vous le voyez comme un désert intérieur?
Ah, tout à fait, oui, oui.
Ce qui fait que vous avez été invité, outre votre compétence et votre sagesse et votre expérience, Claude Rowe, c'est votre amitié pour le père prieur,
André Barbeau, oui.
Frère André Barbeau, oui. Votre lien avec lui fut à l'époque où il était prière de Abbé de Aigbel, et qu'est arrivée la tragédie de Tibérine en Algérie.
C'est ça. Il est arrivé, je crois, un petit peu après, ou juste au moment, puisque c'était en 96, et comme j'étais à cette époque-là, je suis revenu en Algérie parce que j'étais maître des novices au Burkina Faso. Je suis revenu en Algérie en 99, et puis j'ai été élu vice-président de la conférence des religieux et religieuses en Algérie, ce qui m'a fait rencontrer le frère André Barbeau, et aussi ce qui compte beaucoup, c'était mes liens personnels avec le monastère de Tibérine, où j'avais de très grands amis, en particulier le frère Christian de Sergé.
Oui, ça a été quoi pour vous ce drame-là, à ce moment-là?
Oh, ça a été tragique, non seulement pour moi, mais ça m'a fait montrer la tragédie que vivait l'ensemble du peuple algérien. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette flambée de violence a fait 150 000 victimes, et les 19 victimes de chrétiennes, de religieux, religieuses, dont les moines de Tibérine, sont à compter au nombre de ces 150 000 victimes de la violence.
Oui, et quand je parlais de la tête d'Henri Tessier qui était mise à prix, selon le commentaire qu'on me faisait à l'époque, vous vous êtes senti à cette époque-là menacé? Vous avez craint que cette folie meurtrière du Nord s'étende jusqu'au Sud et qu'elle vous atteigne?
C'est-à-dire, nous avons été moins atteints au Sud. Moi, je suis resté en Algérie jusqu'en 1994, donc j'ai vécu quelques années d'expérience de cette violence. Nous étions beaucoup moins atteints parce que les raisons, disons, de cette révolution islamiste étaient moins perceptibles dans le Sud, et nous étions peut-être mieux protégés par la population, qui savait nous dire ne sortez pas. Nous n'avons pas été pris dans cette grande spirale au même titre que dans les grandes villes ou les petits villages qui étaient juste à l'extérieur de l'Algérie.
Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'ensemble de la population qui menait cette révolte-là.
Mais oui, c'était un groupe
de fanatiques.
Bon, de fanatiques, oui.
Claude Roux, vous habitez la terre de Charles de Foucault.
Oui.
Vous êtes sur le terrain même de Charles de Foucault. Ça vous inspire, ce lien avec Charles de Foucault?
Oui, beaucoup. Même si je ne suis pas de la famille foucauldienne, le fait que le frère Charles de Foucault ait vécu une grande partie de son existence, en tout cas à partir de sa conversion, il est venu assez vite après un passage par le Proche-Orient, une période de recherche, il est venu à Beni Abbès, puis à Taman Rasset. Alors, ce qui m'inspire le plus chez lui, ça a été d'abord le fait qu'il soit venu au Sahara, au désert, non pas pour y trouver la solitude, mais pour y rencontrer ceux qui, à son époque, étaient les plus lointains, les plus pauvres, pour vivre une existence un peu monacal, mais dans un esprit de les rencontrer. Ça a été le fait aussi, qui est important, qu'il a retrouvé la foi en voyant des musulmans prier. Il a retrouvé la foi de ses parents. Il était déjà habité par un grand questionnement intérieur à ce moment-là. Et c'est la vision de ces musulmans qui priaient, qui menaient une vie, disons, sur le chemin de Dieu, qui l'a ramené à la foi de ses origines. Ça a été aussi pour moi, c'est aussi pour moi important parce que il n'est pas tant venu apporter aux Touaregs, par exemple, la connaissance du français que de la langue française, que de se mettre à leur école. Et il a fait une école d'inculturation profonde. Il s'est mis à l'écoute de ce monde au milieu duquel il vivait. Il a appris la langue. Il connaissait déjà l'arabe, d'ailleurs, l'arabe classique. Il connaissait l'arabe dialectal. Et là, il a voulu apprendre la langue touareg. Et au bout de la fin de son existence, il avait composé un dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait toujours autorité. Il a recopié 6000 vers de poésie touareg, qui n'étaient pas nécessairement des poésies mystiques, qui étaient l'exaltation de la belle chamelle, l'exaltation de l'amant qui soupire après son amante et dont il est loin. Donc il s'est vraiment incarné dans ce peuple au point d'en saisir l'essence profonde et la langue, tout en restant profondément lui-même. Un ami, un frère de Jésus, et au fond, sur la fin de sa vie, son grand désir était d'être frère universel, et je crois que c'est là le sens même de notre vocation.
Mmh. Il y a plusieurs générations sont passées maintenant depuis la mort de Charles de Foucault,
oui.
Mais sa mémoire, son esprit, est-ce que dans la région on se souvient, pas nécessairement les générations que je vous dis sont passées, mais est-ce que son image, son influence, c'est encore important?
Oui, c'est important à travers sa famille spirituelle. Les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus, les petites sœurs du Sacré-Cœur.
Et ils font partie de votre centaine de...
Oui. Surtout dans la région de Tamandracet et dans le Grand Sud. Et c'est eux qui sont le plus porteurs de ce message, disons, d'amour gratuit, d'amour universel, de par leur vocation à la prière et à la proximité. Hein. Mais je crois que c'est toute notre Église, au fond, qui est marquée par cette dimension-là, à la fois de la rencontre de l'autre et aussi de l'adoration silencieuse de Dieu.
Et ces gens qu'il a beaucoup aimé, les Touaregs, les hommes bleus, pour un peu la légende, c'est une population qui est ouverte, qui est accueillante, ou c'est une population qui est très, très, je veux dire fermée, mais je veux pas le dire de façon péjorative, mais c'est...
Je crois que globalement, le Sud a une grande réputation d'hospitalité. Les gens du Sud sont marqués par cela. Ils ne sont pas encore, disons, déstructurés par les phénomènes urbains où l'anonymat est si fréquent. L'accueil de l'autre fait partie de la religion. L'autre, on le dit, c'est l'hôte de Dieu. Et c'est vrai que les Touaregs aussi, comme musulmans, ont cultivé très profondément cet esprit d'accueil. Mais je crois qu'il est vraiment présent à travers l'ensemble de ce vaste territoire.
Claude Rowe, votre vocation pour devenir missionnaire d'Afrique, c'est né d'un père blanc qui est passé dans votre école primaire quand vous aviez 7 ou 8 ans?
Non, pas du tout. Il est passé, ma vocation de père blanc, elle est née de père blanc au grand séminaire. J'étais engagé dans un grand séminaire. Je pensais d'abord devenir curé de paroisse, mais j'étais de plus en plus attiré par de plus grands espaces. Je ne me voyais pas.
De plus grands idéaux ?
Peut-être de plus grands idéaux, bien que l'idéal du prêtre tel qu'il était présenté dans le séminaire était aussi aller à la rencontre de l'autre, hein, l'action catholique, il y avait une grande déchristianisation à l'époque, mais d'aller plus grand, d'aller au-delà, de quitter mon pays et d'aller vivre la grande aventure de la rencontre de l'autre, tellement différent, avec lequel j'aurais à créer des liens de fraternité.
Monseigneur Claude Rowe, vous semblez avoir acquis dans ce désert une sorte de sérénité. On dirait que vous êtes zen aujourd'hui, si on peut utiliser un vocabulaire emprunté ailleurs. Merci beaucoup de vous être arrêté chez nous.
Merci de votre accueil. Merci beaucoup.